Décryptage, Aurélien Devernoy.
Je m'inquiète de la difficulté à remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État, de tout mon être, comme je l'ai fait jusqu'à présent.
C'était il y a 3 ans, l'empereur Akihito stupéfiait le Japon en annonçant son intention d'abdiquer en raison de sa santé chancelante, une procédure qui n'était pas prévue par la constitution japonaise. Une loi a donc dû être votée pour permettre cette abdication qui aura lieu demain, le jour suivant, mercredi. Donc le fils d'Akihito, Naruhito, sera couronné empereur et avec lui s'ouvrira une nouvelle ère baptisée Reiwa, la belle harmonie. Mais pour aboutir à cette harmonie, le nouvel empereur Naruhito aura de nombreux défis à relever. Lesquels ? Quelle est la portée de cette abdication ? Eh bien, c'est le sujet de Décryptage ce soir. Bonsoir Guibourg de Lamotte.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon. Alors on l'a entendu, l'empereur Akihito a expliqué sa décision d'abdiquer pour des raisons de santé. Mais quelle a été la signification et la portée politique de son geste ?
C'était une première, donc ça a pris de court le gouvernement et puis certainement que beaucoup de Japonais ont été surpris. En principe, la pratique, l'habitude voulait que la tradition voulait que l'empereur mourait sur le trône et en fonction comme les papes, enfin en principe. Et là, effectivement, l'empereur en a appelé à l'humanité en quelque sorte de son peuple et du gouvernement pour expliquer qu'en effet il était trop âgé pour continuer. Et qu'il estimait qu'il ne pourrait plus remplir ses fonctions correctement.
Alors il faut quand même remonter à 2 siècles en arrière, je crois, pour voir la dernière abdication au Japon. C'est un événement tout à fait exceptionnel dans le pays.
Tout à fait exceptionnel. Cette abdication d'il y a 2 siècles est oubliée, hein, en effet. Et c'est vrai que ce qui est sympathique avec cette abdication, du coup, c'est que les Japonais, ils sont complètement associés. Ils ont très bien compris la démarche de leur empereur. Et puis, ça lui a donné un côté extrêmement humain, qu'il avait déjà, d'ailleurs, puisque c'est ce côté très humain que les Japonais aiment. Temps. Et là, tout le monde est associé à cette fête. Enfin, cette abdication est devenue une fête, alors que sinon, elle est tout de même un peu empreinte de deuil. Et puis finalement, c'est une cérémonie sinon qui aurait été officielle et puis qui n'aurait pas tellement marqué la vie des Japonais. Là, ils sont tout à fait plongés, associés aux célébrations. Et puis, ils ont 10 jours de congé, ce qui est très exceptionnel aussi.
Alors, est-ce que ça change la manière dont la maison impériale se voit peut-être déjà elle-même et la manière dont les Japonais voient la maison impériale, le fait de finalement de dire « bon ben voilà, il est temps maintenant que je transmette le trône, le flambeau ».
Effectivement, je crois que c'est montrer les limites de l'homme et donc le côté humain de cet empereur. Alors, ce côté humain, il est apparu tout au long de sa carrière, en fait. Ça a vraiment été certainement un de ses axiomes à cet empereur Akihito. Il a toujours cherché à se montrer proche de son peuple. On l'a vu jouer avec des enfants, avec des personnes handicapées, avec les réfugiés après la catastrophe de Fukushima, s'accroupir avec eux et dans les gymnases dans lesquels il se trouvait. Donc il y a toujours ce côté extrêmement humain, cette profonde empathie que les Japonais ont toujours appréciée. Et c'est vraiment ce qui a marqué. Donc là, cette abdication, elle reste marquée de ce côté humain. Et en même temps, c'est souligné aussi que cet empereur, eh bien, il a une fonction politique à remplir. Enfin, une fonction, il a un métier, en fait. Et que donc, il a le droit, comme tout le monde, d'estimer qu'il ne peut plus le remplir, qu'il peut plus l'accomplir correctement. Et qu'en effet, c'est un métier en plus qui est extrêmement prenant. Non, somme toute. Donc c'est à la fois montrer qu'il est humain et en même temps montrer qu'il est inséré dans une logique politique, en effet. Alors même qu'il a toujours observé énormément de réserves, ce qui est tout à fait ce qu'on attend de lui.
Alors, je vous propose d'écouter justement des réactions de Japonais qui ont été recueillies hier par notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval.
C'est bien qu'on laisse Akihito abdiquer. Son règne a été admirable, mais là, à 85 ans, et vu sa santé fragile, ça lui était pénible de continuer à remplir son rôle. Il a donc bien mérité de se reposer. Sa gentillesse va me manquer, cela dit.
Je suis favorable à cette abdication, mais je regrette que le gouvernement ait décidé que les successeurs d'Akihito devront rester sur le trône jusqu'à leur mort. D'après moi, eux aussi devraient avoir le droit d'abdiquer.
Alors, il y a deux aspects différents à aborder dans ces réactions. Alors, tout d'abord, la personnalité d'Akihito, très populaire, hein, on l'a compris. Quel bilan peut-on tirer de ses 30 ans de règne, puisqu'il avait été couronné en 1989 ?
Son règne a vraiment correspondu à la fin de la guerre froide, à un changement profond du Japon, parce que c'est aussi l'entrée en récession, donc la fin de toutes les années d'après-guerre. Donc somme toute, son règne marque vraiment la fin de cette période d'après-guerre. Ça, c'est sur un plan historique, politique. Disons que c'est certainement ça qui est le plus frappant. C'est aussi une période où le Japon va éprouver le besoin de trouver une nouvelle place sur la scène internationale, compte tenu de ce nouveau contexte, et progressivement, va faire ses premiers pas, notamment par le biais de l'implication des forces d'autodéfense dans le maintien de la paix. Donc, il y aura toute une logique qui va se développer à partir de là. Toute cette évolution donc est apparue. Alors il y a aussi avec le règne de l'empereur, effectivement, le déclin économique qui s'amorce, donc la nécessité de trouver un nouveau modèle, un déclin démographique également, donc beaucoup de choses qui se sont passées. Mais certainement, lui, personnellement, ce qui a marqué son règne, c'est sa proximité avec son peuple, le fait que, contrairement à son père, qui restait proche malgré tout des souvenirs de la guerre, donc les Japonais n'avaient pas du tout d'attachement particulier. Il y avait certainement encore beaucoup de respect pour Hirohito, mais Akihito, lui, vraiment, s'est attiré l'amour de son peuple.
On peut comparer ça peut-être avec la popularité de la couronne d'Angleterre, par exemple. Il a finalement fait rentrer la maison impériale japonaise dans une zone de popularité.
Certainement, oui, absolument. C'est vrai que la reine Elisabeth est très aimée, et l'empereur lui aussi. Alors il a cette fonction, la constitution lui impose d'être le symbole, enfin le fait de lui le symbole de la nation japonaise. Et de fait, il l'a souvent dit. Enfin, il s'est efforcé d'incarner cette nation japonaise. Et c'est vraiment ce qu'il a fait. C'est-à-dire que la population se reconnaît en lui. Il fédère. De tous bords, on l'aime. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Ouais.
Alors, vous parliez de la Constitution. On l'a entendu hein, dans le témoignage de ces passants japonais, mais il faut l'expliquer. La loi qui va permettre à Akihito d'abdiquer demain, c'est une loi d'exception. Elle ne s'appliquera pas à ses successeurs et donc, en premier lieu, à son fils Naruhito. Pourquoi ?
Effectivement, dans un premier temps, d'ailleurs, les réactions ont été un petit peu réticentes hein, au sein du gouvernement et de la classe politique. Quand l'empereur a annoncé qu'il souhaitait abdiquer, je me souviens très bien, j'étais au Japon et donc l'annonce est passée à la NHK et elle n'a pas été du tout reprise ensuite. C'est-à-dire, il y a eu une sorte de temps mort où la NHK s'est comme rendu compte de ce qu'elle avait diffusé et puis ensuite, il fallait laisser le temps au gouvernement, somme toute, d'intégrer la question. Et puis, ce qui a été décidé, c'est effectivement d'autoriser cet empereur à abdiquer, mais de ne pas prendre de décision pour l'avenir, en fait.
Alors, pas prendre de décision pour l'avenir, ça, c'est-à-dire que ça, finalement, laisse la porte ouverte à une modification peut-être plus en profondeur de la Constitution, mais qui devrait être faite sous le règne donc de Naruhito.
Alors non, à dire vrai, c'est distinct, parce que là, il ne s'agit pas de la Constitution, c'est bien une loi ad hoc qui a été adoptée. Donc, ça ne dit rien du tout de ce qui peut se passer avec la Constitution. L'empereur actuel, et certainement son fils également, c'est vraiment leur point commun, très certainement, sur le plan de la philosophie. Ils ont eu l'occasion de manifester leur profond attachement pour cette constitution, et en particulier pour son esprit pacifiste. À cet égard, il y a un certain paradoxe à ce que, disons que les partisans de l'empereur, disons les plus impérialistes, si on veut, ceux qui voudraient voir l'empereur restauré dans ses pleins pouvoirs politiques ou un petit peu davantage en tout cas, eh bien, ne se reconnaissent pas totalement dans les propos qui sont tenus par cet empereur extrêmement modéré, plutôt libéral, donc qui défend la mémoire de la guerre, qui explique qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé, des souffrances des Japonais et des peuples d'Asie. Donc des propos toujours très modérés, et puis un attachement, disons qu'il a toujours expliqué à quel point il était attaché à la fonction que lui attribuait la Constitution, donc au fait d'être un symbole. Mais il a su rendre cette fonction extrêmement noble, alors que une extrême droite un peu radicale voudrait prêter un y voir un rôle beaucoup trop limité. Et l'empereur a su donner à ce rôle, au contraire, une dimension extraordinaire.
Alors parlons de Naruhito maintenant. Justement, lui aussi a la réputation d'être très modéré, très libéral. Et c'est un prince héritier qui a été l'auteur de plusieurs premières, puisque ça a été le premier à avoir un diplôme universitaire en histoire. Il a étudié en Angleterre, notamment. C'est le premier aussi à avoir épousé une roturière, ce qui ne s'était jamais vu. C'est pas le premier ?
Son père,
mais
lui aussi.
Et lui aussi a épousé une roturière, la princesse Masako, qui est...
Michiko, la maman.
Masako, la
Masako
femme
et l'épouse de
Naruhito. Alors, je me suis...
Excuse-moi.
Masako est la femme de Naruhito.
Qui est
diplomate de formation, je
Exactement,
crois.
Exactement, voilà.
C'est ça. Donc, il a quand même une forme aussi, il amène une forme d'originalité, dans ses fonctions de prince héritier pour commencer. Et désormais, puisque mercredi sera couronné empereur, dans ses fonctions impériales, est-ce que ça va faire de lui, pour autant, un empereur différent de ses prédécesseurs?
Alors, je pense que, disons que ce qui pourrait se passer, ce qu'il pourrait souhaiter, essayer de faire, c'est qu'il serait capable, lui, d'intervenir, par exemple, de donner des discours, des conférences de presse en anglais, et son épouse également. Il pourrait donner ce côté plus très international, disons, ou cosmopolite, disons, à la fonction impériale. Sinon, il aura davantage de liberté? Certainement pas. C'est quand même une fonction qui est extrêmement encadrée, jalousement contrôlée, disons, par la maison impériale, donc toute une administration autour de la famille impériale. Donc leurs faits et gestes, leurs mouvements, leurs visites, leurs propos sont très très encadrés. Donc est-ce qu'il aura une liberté véritable? Ça, on ne peut pas savoir. Mais je crois qu'il son souhait, certainement, enfin sur le plan de la personnalité, on le sent vraiment très proche de son père. Donc je pense que déjà s'il pouvait continuer dans cette veine, je pense que certainement il en éprouverait une grande fierté. Après, en effet, je pense que ce qu'il souhaiterait, c'est que son épouse s'épanouisse un peu plus qu'elle n'a pu faire en tant que princesse. Et peut-être qu'en tant qu'impératrice, effectivement, la maison impériale acceptera qu'elle joue un rôle de représentation un peu plus appuyé et qu'elle puisse éventuellement avoir une fonction,
un rôle de première dame un peu moderne, peut-être.
Un rôle de première dame un peu plus moderne, oui, c'est ça, ce dont elle a pu faire l'expérience en tant que princesse, en tout cas, ça a été extrêmement limité.
Alors parlons justement du poids de l'héritage que va devoir porter Naruhito, qu'il le veuille ou non. Je vous propose d'écouter tout d'abord cet extrait sonore.
It is also a time, he says, to recall the achievements of his father, the late Showa Emperor, and what he did during his more than 60 years on the throne.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la prestation de serment en direct d'Akihito en 1989, ça c'était inédit, durant laquelle il rend hommage aux accomplissements de son père, Hirohito. Mais l'héritage, forcément pour lui, était lourd à porter, puisqu'il y avait le désastre de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, comme un symbole, le règne d'Akihito a été baptisé l'ère Heisei. L'accomplissement de la paix. Mm-hmm. Ce poids, est-ce qu'il va être moins écrasant pour Naruhito?
Je pense que ça reste, malheureusement, ça reste d'actualité, disons, la question de la mémoire, la question, alors c'est pour partie du fait des voisins qui, disons, se plaisent à rappeler sans cesse les souvenirs de la guerre, parce que c'est quand même assez facile, il faut en convenir, et puis d'un autre côté, le fait de certains hommes politiques, et Monsieur Abe a fait partie, il y a une dizaine d'années, de ces hommes politiques, qui fait beaucoup plus attention maintenant, qui tendent quand même le bâton pour se faire battre, donc qui rappellent eux-mêmes, qu'il y a une frange de la population qui n'est pas nécessairement d'accord, etc., qui souhaite maintenir cette
mémoire du Japon conquérant.
Oui, maintenir un peu cette mémoire et puis qualifier les crimes de guerre, enfin les atténuer un peu si c'est possible. Et là, donc je crois que dans la mesure où ça reste d'actualité, et puis déjà pour son 55e anniversaire à l'occasion des 70 ans de la guerre Bernard Lecitot avait eu l'occasion d'exprimer cette idée qu'il était très attaché à la mémoire, à quel point il trouvait qu'elle était importante. Donc ça, je pense que ça va rester une continuité. Disons que c'est ce qui a réussi en quelque sorte Akihito. Il s'est appuyé sur ce point un peu délicat en fait pour se forger une légitimité enfin et une image d'empereur libéral, donc plutôt de gauche. Et Naruhito devrait vraiment continuer dans cette veine.
Alors, chaque règne d'un nouvel empereur ouvre une nouvelle ère au Japon. Donc, l'ère d'Akihito, c'était l'ère Heisei. Celle de Naruhito sera l'ère Reiwa, qui veut dire la belle harmonie. Écoutez, le premier ministre japonais, Shinzo Abe, le jour où a été dévoilé ce nom.
Nous devons être reconnaissants à cette période de pacifique que nous venons de vivre et durant laquelle notre culture a pu s'épanouir et où nous avons pu profiter des beautés de la nature. Et je renouvelle mon engagement à lancer une nouvelle ère qui sera emplie d'espoir avec le choix de ce terme Reiwa. J'espère que cette ère sera largement acceptée par le peuple du Japon et qu'elle s'enracinera profondément dans nos vies.
Alors c'est une ère qui s'ouvre avec un nouvel empereur, mais on a l'impression que le Premier ministre Shinzo Abe a bien décidé de prendre en main ce début de règne de Naruhito.
Oui, alors là, effectivement, l'empereur est toujours un personnage effacé, hein, il faut pas l'oublier. Il a un rôle d'ailleurs plus effacé que la reine d'Angleterre à cet égard. Et donc c'est vrai que la conduite de la politique et toutes les décisions, toutes les impulsions politiques proviennent du Premier ministre. Donc l'empereur, ils ont beau la famille impériale a beau se déplacer à l'étranger, sa fonction est de représentation, enfin elle est symbolique, mais c'est un peu comme un cadeau qu'on fait. Vous voyez, c'est pas du tout, il y a pas tellement de il y a pas de message. Il n'y a pas de négociation, disons, qui passe par le biais de ce personnel, disons, impérial, de cette famille impériale. Donc le Premier ministre, là, ce qu'il exprime, c'est effectivement son souhait que l'ère qui démarre soit porteuse de renouveau. Et c'est un peu cette idée qui est dans le terme Leiwa, qui est issu, enfin les deux caractères chinois sont issus d'un texte qui est un texte japonais classique qui s'appelle le Manryūshū, qui est considéré comme la première anthologie japonaise de poèmes, donc à juste titre il y a une certaine fierté à cet égard, c'est un texte du 8e siècle. Donc, et c'est l'idée en fait du vent du printemps, vous voyez, qui apporte une fraîcheur. Et c'est vrai que dans un contexte où le Premier ministre cherche à faire redémarrer la croissance, à lutter contre la déflation, et à lutter contre le déclin démographique, où il inaugure, disons, une ouverture à l'immigration. Enfin, il y a beaucoup de tentatives malgré tout. Bon, je crois que c'est ce qu'il essaye de faire valoir là dans ce discours.
Alors, est-ce que justement, au niveau du Japon, il y a des attentes qui sont fortes vis-à-vis de cet empereur, même si vous l'avez dit, il a quand même seulement des fonctions de représentation.
Ça va être, c'est pas facile de passer après. Alors après Hirohito, certainement c'est difficile aussi, mais quelque part comme l'empereur pouvait être très différent, c'était somme toute, il avait un champ de possible qui s'ouvrait à lui. Là, Naruhito est proche de son père et son père était très aimé. Donc là, il va falloir qu'il soit digne de l'héritage, qu'il soit à la hauteur. Donc c'est là qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves, mais certainement qu'il les fera. Et je crois qu'il l'empereur lui-même Akihito a mis du temps avant de devenir la personnalité qu'il est devenu, aimée, fédératrice, incarnant une forme de sagesse liée à son âge aussi. Et là, Naruhito a quand même une soixantaine d'années, certainement que c'est le bon moment pour que cette transition se passe et qu'il apporte en même temps un peu d'énergie. Et puis sa marque, effectivement, sera peut-être un peu plus d'internationalisme, donc si on le laisse faire.
Alors, il y a quand même, il nous reste un tout petit peu de temps, la question de l'avenir de cette lignée impériale qui est en place depuis très longtemps, hein, 2500 ans, il est dit au Japon en tout cas. Ouais. Que va-t-il se passer? Parce qu'aujourd'hui, Naruhito n'a pas de fils, il a un frère qui va devenir le prince héritier, et puis il a un neveu qui est donc le fils de son frère.
C'est ça qui est apparu miraculeusement en 2006, alors qu'il y avait déjà deux grandes filles donc dans cette branche, donc certainement il n'avait pas l'intention de refaire un petit enfant, mais enfin bon, en 2006, quand il était question donc de changer la loi de succession sur le trône pour que, précisément, on puisse laisser des femmes hériter, donc miraculeusement, cet enfant est apparu. Effectivement, après lui, il va falloir que la lignée se poursuive, puisque les femmes sortent de la famille impériale.
Merci beaucoup, Guibourg de la Motte. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'INALCO.